des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, cette semaine, on a un invité multimarque. On peut-tu dire ça comme ça?
C'est pas une sorte de pain, ça, multimarque?
Peut-être, mais chose certaine, il est propriétaire de plusieurs concessions automobiles. Vous avez vu son nom sûrement quelque part.
Et surtout entendu sa voix, je pense.
Oui, c'est ça, c'est ça. Il dit nous attendre. Alors, oui. Nous, on a répondu à son appel et on est là pour lui. Alors, on est avec Denis Leclerc, président du groupe Albi Le Géant. Alors, Denis, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous.
Bon, on va expliquer aux auditeurs qu'on se tutoie parce qu'on se connaît. Alors, moi, je voulais parler avec toi, Denis, parce que évidemment, ça a été des années quand même assez particulières, les deux dernières années qu'on a vécues. Et là, on fait face à une problématique qu'on n'aurait peut-être pas pu anticiper, c'est-à-dire celle de la pénurie. De la pénurie sous toutes ses formes. On manque de véhicules, dans le neuf comme dans l'occasion, on manque de main-d'œuvre, on manque de pièces. Alors, toi qui es propriétaire de plusieurs concessionnaires, qui fait affaire avec plusieurs constructeurs automobiles, je voulais évidemment discuter de ça. D'abord, avoir ton pouls sur comment ça se passe au chapitre de la pénurie de véhicules, comment on fait pour composer avec ça?
Bien, évidemment que c'est encore une fois depuis 2 ans, on a dû se refaire à plusieurs moments avec les ouvertures, les fermetures. J'imagine au niveau des manufacturiers aussi, commandent pas, l'histoire des puces qui manquent.
Ouais.
Est-ce que c'est vraiment des commandes qui n'ont pas été faites? Est-ce que c'est des commandes qui ont été faites, mais vu que les maisons vendent plus de télé, des téléphones, la vie ayant changé, nos puces seraient dans d'autres objets qu'un automobile?
Ah oui, hein?
Je me dis ça aussi. À un moment donné, on sait qu'on a une usine qui a été flodée, je pense que c'est celle de Toyota. Nissan avait passé au feu, je crois. Il y a un paquet d'enchaînements qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu là. Sûrement aussi que les ventes automobiles sont supérieures à ce qu'on s'attendait. Évidemment, même moi, je m'attendais pas que ça serait fort comme ça. On avait prévu un ralentissement, on avait tout fait des objectifs, des forecasts plus bas que notre nouvelle réalité. D'un côté, c'est le fun parce qu'on n'a pas besoin de tenir des stocks énormes d'inventaire, sauf que on va devoir se refaire parce que maintenant, le consommateur va devoir commander son véhicule. Enfin, pour la période, je dirais à partir de maintenant, pour octobre, novembre, décembre, notre consommateur doit s'aligner sur laisser un dépôt peut-être de 500 $ et commander le véhicule de la manière qu'il veut. Et les concessionnaires qui vont vraiment performer, ça va être ceux qui vont mettre l'effort de faire un suivi de la commande. C'est bien beau prendre des commandes, prendre des dépôts, mais notre client devra savoir que le véhicule, maintenant, il est cédulé à être bâti, il va être bâti. Il est bâti, il est rendu au port, à partir du port, il va prendre le train, ça va prendre encore 2 autres semaines ou 11 jours. À partir qui arrive, c'est un autre 3 jours de débarquement. Donc, on va pouvoir estimer une date plausible, sauf dans des véhicules très, très, très spécifiques où ça peut arriver que la chaîne de montage n'est pas complète puis ils vont dire « OK, ces véhicules-là, on ne peut pas les bâtir ». Ça va arriver, mais ça va être une minorité de clients qui ne sera pas bâti. Et ces gens-là, bon, on doit leur expliquer. Si tu vas avoir un camion équipé de A à Z avec un différentiel différent, mais ça se peut que lui, tu l'attendes un peu plus, c'est possible. Et pour la bonne chose, pour ceux qui ont commandé en 2021, bien souvent, ils vont recevoir un 2022. Ça va être probablement la même transaction, fait que le client a gagné un an, dans le fond. Il y a des avantages pour le client, mais comme je vous dis, au début, par manufacturier, on commençait à avoir une baisse d'allocation d'auto. Et je peux dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est général. Tous les manufacturiers en novembre-décembre vont manquer de véhicules. C'est évident. Donc, nous, chez Albi, ce qu'on a mis en place, on contacte nos clients, on a un véhicule à évaluer, on leur explique qu'on va le réévaluer dans 2-3 mois.
Ouais.
Évidemment qu'on peut s'entendre avec le client lorsqu'il nous dit « Moi, je fais 2000 kilos par mois. Le véhicule est de tel état en ce moment. Denis, on s'entend qu'il ne sera pas cabossé tout le tour, mais je vais avoir 6000 kilos de plus. Est-ce que tu peux respecter le prix de mon échange dans 3 mois? » La réponse est oui.
Okay.
On va le mettre par écrit. Dans certains cas, si j'ai un 114 000 km et que le consommateur fait 4-5 000 kilos par mois, lui, je vais être obligé d'y expliquer qu'on va revoir le marché quand il va revenir. On n'exagérera pas, mais on doit se protéger un petit peu aussi en même temps. Autant, moi, je pense qu'une transaction, c'est bon pour le consommateur, puis c'est bon pour le commerçant aussi. Quand le marché est bon pour les deux, on fait un bon marché.
C'est clair.
Ça fait déjà quelques mois qu'on parle de pénurie, mais toi qui possèdes plusieurs bannières, à l'intérieur de ces bannières-là, est-ce que il y a des modèles qui sont disponibles en ce moment, donc demain matin, bon, pas demain matin parce que c'est la fin de semaine, mais lundi matin, je veux me procurer un véhicule neuf, je débarque dans une concession, qu'est-ce qu'on a de disponible qu'on peut prendre possession au cours de la semaine?
C'est aléatoire par manufacturier, mais oui, on peut recevoir sur 2 semaines une dizaine de saules. Puis dans 2 semaines, j'ai plus de saules, mais je reçois une dizaine de, mettons, le nouveau Kia Seltos.
Ouais.
Mais j'en ai encore pour 10 jours. Fait, c'est aléatoire. On peut pas dire, comme Mazda, maintenant, en ce moment, j'ai peut-être une trentaine de CX-5. Une trentaine de CX-5 pour Albi, c'est
même pas 10% de ce que c'était il y a 2-3 ans, là. C'est ça.
Pas compliqué, si on parlera en dollars, là, j'ai tenu jusqu'à 250 millions d'inventaires, puis aujourd'hui, j'en ai 50. Ben, j'ai 25% de l'inventaire qu'on avait avant. Comme je disais tantôt, pour nous, c'est correct d'un côté parce qu'on sauve des frais d'intérêt.
Ben oui.
En même temps, ça nous permet de faire un meilleur deal aux consommateurs aussi, puis de garder notre personnel parce que si on va plus loin, pour le mois de novembre, décembre, janvier, on va devoir supporter nos collègues artistes, là. Parce que si on en a... Comme j'expliquais tantôt, ce que j'ai compris des manufacturiers, ce que tout le monde a l'air à bien communiquer, si je vends cette semaine 25 Kia chez Albi Kia à Mascouche, je mets 25 commandes dans le système, je vais sûrement en avoir 23, 24, puis je vais avoir peut-être à jouer avec un ou deux clients pour leur déplacer ou ils vont me donner les véhicules. Autrement dit, le mois dernier, je pense qu'on a livré 125 Kia, mais le mois est fini aujourd'hui, là. Puis j'en avais 25 en stock. Donc, j'ai 100 clients qui ont reçu leur auto qui était déjà précommandé.
Est-ce que je me trompe si je dis que il y a peut-être un accès à des véhicules plus facile chez les Coréens que chez des Américains pour des camionnettes, par exemple? On a l'impression que des véhicules, c'est presque un rêve aujourd'hui de penser pouvoir mettre la main là-dessus, alors que quand je passe devant un concessionnaire Kia ou Honda, ben il y a des rangées d'Honda Civic.
Chez Honda, on manque pas de Civic ni de CR-V.
Je me dis, il y a peut-être...
La pénurie n'est pas égale partout.
C'est ça.
Exactement. Ça, c'est... Moi, je parlais avec un concessionnaire hier, puis il me disait qu'il y en avait un peu d'Honda en stock. Mais encore ça, moi, si tu viens aujourd'hui, j'ai beaucoup de Mazda.
Ouais.
Tu reviens le mois prochain, ma cour va être vide.
OK. Fait que c'est très inégal.
C'est très inégal, ça se promène. Donc, pour vraiment... T'sais, je sais que le consommateur n'est pas habitué. On avait tellement d'inventaire avant que le client y arrivait, puis c'est payé, emporté, puis on s'en va. Maintenant, il faut vraiment que les gens s'alignent à dire « Je sais ce que je veux, je vais le commander, je vais m'assurer de protéger la valeur de mon échange. » Il ne faut pas oublier aussi que si j'ai garanti son échange pour 3 mois avec 6 000 kilos, puis s'il en fait 10, c'est pas grave, là. S'il en fait 24, parce qu'il fait 2 voyages en Floride, qui est moins tentant, là. OK?
Ouais.
Non, mais on se le fait faire, malheureusement.
Il passera par le Mexique.
C'est souvent l'exception qui force les règles, hein?
Ouais.
C'est un petit peu ça. Alors, si notre client vient puis il nous dit « Regarde, je vais en faire entre 6 et 8 000 kilos, je vais y protéger son prix, puis pendant ce temps-là, sa dette va baisser. » Fait que sans correction de prix, quand il va prendre livraison, il va avoir une équité de gagner. Puis s'il va l'avoir gagné, c'est moi qui vais supporter la valeur de son véhicule.
C'est intéressant ce que tu mentionnes là parce que ça m'amène peut-être sur ma prochaine question. Parce que qui dit pénurie de véhicules neufs dit forcément pénurie de véhicules d'occasion. Et
monter des valeurs.
Et monter des valeurs.
Les occasions sont montées en flèche, là.
Exactement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que comme il y a une majorité de Québécois qui, il y a 3-4 ans, louaient leurs véhicules plutôt que de les acheter, je me dis, la valeur résiduelle qui a été établie lorsqu'on a loué un véhicule en 2018, elle ne reflète plus la réalité de la valeur du véhicule aujourd'hui parce que, voilà, d'une part, le véhicule a moins de kilométrage qu'il aurait dû en avoir, puis deuxièmement, ben, parce qu'il n'y en a pas, l'effet d'offre et de demande n'est pas la même. Alors, toi, tu fais quoi? Est-ce que tu rachètes ces locations-là plus chères? Comment ça marche?
Eh oui, on les rappelle toutes. Le client l'année passée, mettons, qui aurait eu, mettons, ce qu'on on dirait une équité négative de 3 000 sur son véhicule, OK?
Ouais.
Aujourd'hui, il n'y en a plus.
C'est ça.
Il est à zéro ou il est à profit. Donc, nous, on a une équité. Naturellement, là, c'est parce que je suis en train de donner des trucs de succès commercial.
Mais oui, mais on aime ça.
Je partage ça avec mes confrères de la confrérie, c'est bon. Mais non, effectivement, on a des équipes en ce moment qui rappellent tous les clients sans les harceler naturellement dans des heures logiques. Là, on ne s'appelle pas pendant les émissions le soir et pendant le biberon non plus. Là.
Ouais, ça a l'air que District 31, c'est bien sacré au Québec.
Oui. Ben, on lui communique la bonne nouvelle, puis il y a des clients qui sont agréablement surpris. Et on fait des transactions. Par contre, encore là, c'est une transaction pour dans 2-3 mois parce qu'on ne pourra pas le livrer vite. Et on y explique qu'il y a l'équité supérieure en ce moment. On va y garantir son prix pour dans 3 mois. Il se met en position de commande, puis on va le livrer dans 3 mois. Et ce que je comprends des manufacturiers, de plus en plus, ils réduisent nos allocations. D'après moi, ils gardent des véhicules pour donner aux clients vendus. Mais là, je te donne un secret de polichinelle.
Ouais, c'est ça.
Je n'aimerais pas le manufacturier, mais il y en a un qui m'a coupé des véhicules que j'avais des numéros de série qui n'étaient pas vendus.
OK.
Ils ont repris, puis moi, je suspecte qu'ils sont après se faire des banques. Puis avec ces banques-là, quand on va avoir des factures signées, ils vont combler le vide. Alors, c'est nous autres, on a juste à faire des commandes. C'est tout. Et les clients vont envoyer leurs autos. Et c'est tout l'art du concessionnaire sur une commande. Si tu suis le client, moi j'ai vendu des autos sans les vendre. Le client me disait, hey, on va avoir ça, ce produit-là, dans 3-4 mois. Personnellement, avec mes agents que j'ai entraînés moi-même, là, puis je le fais moi-même, ouais, parce que je suis un perfectionniste, on rappelait le client, regarde ton auto là, que tu n'as pas encore vu, que tu n'as pas encore acheté, là, elle est là, puis un jour elle va débarquer du bateau là. Puis ce même client-là, il était loin de chez nous, mais il a tellement donné les bonnes réponses qu'on l'appelait peut-être aux 2 semaines. Quand il est arrivé, j'ai fait 2-3 concessionnaires, voici les chiffres que j'ai. Si tu matches ça, il faut que je le prenne ici. J'y ai vendu, c'est sûr. Alors, les gens veulent juste se faire sécuriser que cette nouvelle forme de vente commande-là. On sait que les gars de camions, ils en commandaient des trucks. Fait que vous me parliez des camions tantôt. Le gars de camion, il attendait 3 mois, là, il va peut-être attendre 6 mois. Ça a différence vraiment, mais lui, il est habitué de commander son truck, puis il roule avec le sien en attendant, puis les camions prennent de la valeur, puis souvent, ils se ramassent aux États-Unis, puis ça dépend du taux de change.
Fait c'est peut-être un peu moins vrai de ce temps-là, là, mais ouais.
Ouais, mais ils vont attendre 6 mois pareil. Ça va être ça, un camion. Là. Ça va être entre 4 et 6 mois. Encore là, je parlais tantôt, il faut faire attention à l'exception de l'exception, qu'elle, elle peut être plus longue. Là. J'imagine, si tu commandes un Hummer aujourd'hui, j'ai pas encore ta date. Là.
Non. Non, c'est ça.
Des Hummers, j'en ai 12 ou 14 de vendus.
Et des Corvettes, c'est effrayant.
C'est la même chose. Ouais. Une Corvette, c'est un Hummer. Ça va être la même affaire.
Ouais. C'est juste pas sur le même terrain que ça aime aller jouer. Mais ça, c'est une autre affaire. Écoute.
Il va être électrique.
Oui, c'est ça. Écoute, tu me parles de différence entre certains manufacturiers, Denis. Moi, je me suis laissé dire qu'il y a des manufacturiers de ce temps-là qui ont... parce qu'évidemment, bon, on le sait, là, un concessionnaire, le nerf de la guerre, c'est de supporter l'inventaire. Si tu as moins d'inventaire à supporter, la profitabilité, veut pas, est là. Elle est plus intéressante par véhicule vendu quand ça reste pas longtemps dans le cours. Mais il y a des constructeurs automobiles qui, ces temps-ci, forcent les concessionnaires à piner, ou si tu me permets aussi, à
pré-enregistrer,
merci le terme, à pré-enregistrer des véhicules qui seraient non vendus et qui seraient même pas encore dans ta cour. Alors,
Je veux dire, moi, sérieux, j'ai pas ça dans mes marques. Là.
T'as pas ça dans tes marques? Parce que...
Ah, mais je suis anti ça, là.
Ouais.
Voilà, moi.
Parce que là, évidemment, les constructeurs automobiles ont encore, dans certains cas, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais ont encore l'objectif de vouloir afficher des ventes toujours plus hautes, toujours plus hautes, toujours plus hautes. Et on en reparlera un peu plus tard dans l'entrevue, mais évidemment, le marché a changé aujourd'hui. Tu penses quoi de ça, toi?
Moi, je vais te donner un exemple. Mettons, Hyundai a fermé avant le temps parce qu'il y avait assez de ventes. Ben, c'est le contraire de ce que tu me dis. Là.
Ah oui, hein?
Wow. Je pense que Hyundai a fermé ce matin ou hier soir, qu'on ferme d'habitude à minuit la journée de la fin de mois.
Il faut peut-être expliquer aux gens que fermer, ça veut dire fermer un mois, enregistrer les ventes du mois.
Pas fermer la porte d'en avant, là.
C'est ça.
Autrement dit, eux autres, ils ont un plan, puis en date de avant le temps, ils nous ont dit on ferme, puis c'est beau, on s'en va au mois prochain. Fait que, non, fait. Ce que vous me dites là, je l'entends, là, je suis dans ce business-là, mais avec la pandémie, je verrais plutôt le contraire.
OK.
Parce que l'autre chose aussi, le concessionnaire qui, mettons que je suis prêt à enregistrer, ben, je peux perdre la location aussi. Là. C'est pas,
ben oui.
Je comprendrais pas. Je comprendrais pas. Tu sais, si t'es à 4999 autos puis il en manque une, correct. On va mettre 5000, on a 5 démos, on a-tu quelqu'un qui est prêt, qui va vraiment l'acheter, il manque une PIN, c'est correct, là, tu veux faire un record mondial. Mais en ce moment, ce pré-enregistrement-là, moi, dans mes franchises, ça n'existe pas. Et aussi, j'ai choisi aussi de travailler pour ceux que je veux travailler. Hein. Parce que moi, je suis peut-être un président, mais quand t'es un franchisé, t'es pas nécessairement le patron. T'es le patron d'une partie de la business, puis l'autre business, c'est ton manufacturier qui est le patron.
C'est un rôle intermédiaire, là, finalement.
Tout le temps. Et moi, j'ai choisi de travailler pour ces franchises-là.
Puis, évidemment, ben, d'un constructeur à l'autre, les choses sont souvent très différentes. Les façons de faire, la mentalité, c'est pas la même chose.
J'ai de l'affinité avec Hyundai, Kia, Nissan, Mazda, puis les produits GM. J'adore GM. Et on n'a pas de... J'ai pas de plainte de clients. Ça va bien. Ça va vraiment bien. Comme je disais tantôt, les gens comprennent. Puis avec des bonnes explications, puis de la vraie business ancienne poignée de main, là, qu'on se donne plus d'ailleurs, là,
ouais.
c'est ça qui va perdurer. C'est là qu'on s'en va.
On a parlé de pénurie de véhicules neufs, pénurie de véhicules d'occasion, mais il y a une autre pénurie qui touche plus que l'industrie automobile, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Toi, avec tes concessions, comment tu te débrouilles à ce chapitre-là?
Ben, nous, ce qu'on a fait, on a majoré le taux de base. Je me rappelle dans le temps, le départ d'une personne. Moi, j'ai commencé le laveur de véhicules. Okay, ma première chose dans l'automobile, j'avais peut-être 10-11 ans, mais j'étais laveur. Bon. Un laveur, ça commençait à 12-11 $ de l'heure, 12-13, puis on avait une petite majoration la deuxième année d'un dollar, la troisième d'un autre dollar, tu étais rendu à 15, tu en avais à 16. Pour matcher la CPU, n'a pas bien le choix, la PCU, c'est-à-dire, excusez-moi.
Ouais.
Pour la matcher, nous, on a commencé à 19 $ de l'heure. J'ai commencé par prendre mon salaire de base, le monter à 15 quand on a entendu parler qu'on s'en allait peut-être à 15. Moi, j'étais allé à 15 tout de suite, je me suis dit, garde, premièrement, je me dis que le jeune veut grandir et tout, puis il veut se payer un appart, là, à 12 $ de l'heure, ça ne marchera pas. Fait que je suis monté à 15, puis au retour du COVID en mai 2020,
ouais.
Je suis monté à 19 $ de l'heure. J'avais mis 1 $ de présence. Vous allez rire, là. Ben,
comment?
1 $ de présence. Fait que dans le fond, je donnais 20 $ de l'heure, mais c'était 19 plus 1 $ de présence. Si tu n'étais pas absent de la semaine, tu avais 1 $ de plus.
Ben voyons donc. De la semaine, pas de l'année, là, de la semaine.
Juste dans la semaine. C'était mon plan. C'était 19 plus. Je voulais donner 20, mais je cherchais une manière que je ne perde pas tout le temps quelqu'un une journée. Donc, j'ai dit, je vais mettre 20. J'aurais dû faire 18-2, mais en tout cas.
Et là, évidemment, tu me parles de laveur. Moi, c'est parce que quand je pense à une concession automobile, je pense à un département de comptabilité, je pense à des mécaniciens, je pense à des gars qui travaillent en carrosserie, évidemment, à tous ceux qui s'occupent du renouvellement des ventes, tout ça. Il y a tellement de... les employés dans toutes les sphères d'une concession sont tellement convoités un peu partout que de garder son monde, c'est pas évident, là.
Ça fait 15 minutes que tu t'es ajusté. Pas compliqué. Quand, lorsque, si tu t'es pas... Moi, nous autres, ce qu'on a fait, on s'est ajusté avant. On a, un, baissé un peu notre masque pendant le COVID automatiquement. Puis au retour, on a dit, OK, avant de rentrer tout le monde, là, on va regarder ceux qu'on rentre, si on peut les garder, puis si on peut s'ajuster au marché. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est ajusté au marché avec tous ceux qui sont là. C'est pour ça que j'ai presque 55%, 60% des gens qui ont plus de 5 ans chez Albi. Aujourd'hui, plus de 5 ans, c'est beaucoup.
Ouais.
Alors, mais j'ai commencé parce que c'est plus facile de retenir que de reformer encore. Là. On sait que la formation, c'est pas une que ça coûte cher, ça prend du temps. Puis pendant le temps que tu fais de la formation, ben le consommateur, il souffre de faire affaire chez vous.
Ce que tu veux pas non plus, c'est former quelqu'un pour quelqu'un d'autre après.
Exactement. Ouais. Puis le moins possible, mais on n'est pas à l'abri de ça. Puis aujourd'hui, les gens vont bouger. Fait que avant, nous autres, chez Albi, on avait des belles soirées puis des parties. Regarde, on a une loge au Centre Bell. Tout le personnel va aller voir un show ou va aller voir une partie de hockey. Tout le monde va y aller. C'est pas toujours les mêmes, là. Tout le monde va aller là. On a des avantages.
Alors, c'est pour ça que tu n'as pas de concessionnaire à Québec.
C'est plus dur d'aller voir du hockey à Québec.
C'est ça. Ouais.
Oh là là, fait que c'est ça. On s'est vraiment ajusté avec les salaires partout. Ça, c'est la première chose. Puis après ça, ben les horaires. Il a fallu travailler les horaires parce que les gardiennes, demander à vous être ici à 8h15 le matin, ça n'existe plus. C'est 9h. Parce qu'entre 7h30 et 9h, ils sont en déplacement. Et la comptabilité, ça rentrait à 8. Maintenant, c'est les heures changent. Il faut qu'ils partent à 3h30 souvent parce qu'il faut qu'ils aillent chercher l'enfant avant 4h ou avant 4h15 ou 4h30 à l'école. Tout ça, ça a tout changé. Le télétravail qu'on vit avec. Dans certaines sphères de mes commerces, le télétravail peut fonctionner, mais dans d'autres, ça ne marche pas.
Non, c'est donc, ça. Donc, ce que tu me dis, c'est que c'est pas uniquement une question financière.
Non, du tout. Du tout. Premièrement, nous autres, on est un people business. Ça a toujours été l'automobile, c'est ça.
Ouais.
C'est un people business. Puis on est people nous-mêmes. Moi, j'ai pas eu d'enfants, mais j'en ai une grande famille d'enfants. Puis ça m'occupe énormément, mais j'aime ça. Puis quand j'aime pas ça, ben là, c'est moi qui s'absente le temps de prendre un petit break, puis je reviens après. Mais c'est un peu ça. On n'aura pas besoin. Tu sais, je regardais là où on est maintenant dans l'embauche.
Ouais.
On parlait, on a peut-être une trentaine de postes. Ben, je vais peut-être réduire ça à 16 ou 17 postes à combler parce que pour ce qui est des ventes, j'embaucherai pas parce que je vais devoir supporter les collègues qui sont là actuellement qui vont peut-être l'entendre à la radio là, mais les gens se doutent même pas là que ça se peut qu'on ait moins d'ouvrages en novembre, décembre, janvier. Puis l'entrepreneur qui est prudent, puis je parlais avec un autre concessionnaire de groupe hier que j'estime, puis il me dit, Denis, t'as-tu un plan pour supporter ton monde? Bien, j'ai dit, on est en train de le fabriquer, puis on va dévier, puis j'ai des agents qui font des appels, bien, on va les différer dans le service. On va en profiter pour ces 3-4 mois-là pour refaire nos banques de données,
ouais.
aller se redocumenter sur notre client.
Alors, se réinventer une autre fois, finalement, là, parce que c'est ce qu'on fait pas mal depuis un an et demi.
Oui, puis quand les autos vont rentrer en malade mentale, parce que moi, je pense qu'en 2022, peut-être au milieu de l'année, on va peut-être revenir à normal. J'ai pas de boule de cristal, je me l'étais promis pour l'automne, puis je me suis un peu planté. J'ai l'impression que j'étais dans le jet. Mais quand on va revenir à normal, on va vivre une effervescence de fou. Fait que faut être prêt encore. Fait que donc, moi, dans ma tête, on se prépare. Pendant qu'il y a des genres de coups qui arrivent ou des situations qui arrivent, si tu es proactif, bien, utilise ce temps-là pour peaufiner tes affaires. Parce que quand ça roule, tu n'as plus le temps de peaufiner.
Ah ouais. Écoute, Denis, je veux terminer en parlant de Mazda, parce qu'évidemment, Mazda, c'est la marque que tu as tatouée sur le cœur depuis très, très, très longtemps.
Deux bagues.
Ouais, c'est ça. Ben, écoute, moi, je me souviens d'avoir eu une discussion avec toi où Mazda, c'était ton bébé. Évidemment, tu as grossi avec le temps, tout ça, mais il fut une époque où tu étais le plus gros vendeur Mazda au monde, où tu faisais énormément de volume. Et on constate aujourd'hui que Mazda prend une direction qui est un peu à l'opposé de cette philosophie-là, en ce sens que on vend des véhicules qui sont peut-être plus raffinés, plus chers, pas accessibles nécessairement à la masse comme c'était le cas à une certaine époque. Et toi, j'imagine que, considérant le plan d'affaires que tu avais vis-à-vis de cette marque-là il y a plusieurs années, ben, tu n'as pas le choix de t'ajuster. Comment ça marche au juste?
Écoute, c'est tellement vrai ce que tu me dis. Je peux te dire que ça m'a peut-être pris un peu de temps à m'ajuster.
OK.
Effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose parce que on est parti de 4000 voitures puis on a descendu jusqu'à 1500. Là, on en remonte à 2000, puis aussitôt qu'on a des voitures, je pense qu'on a le chemin pour revenir à 3000, puis on devrait reprendre notre chemin de croisière. Mazda a décidé de faire un chemin de cas par cas. Il veut qu'on prenne plus de temps avec nos clients. Les automobiles sont rehaussées, Mazda a toujours eu des beaux designs, ça, je sais pas, à part d'une année ou deux, là, Mazda a toujours un auto que tu as le goût d'acheter, mais maintenant, les trims des cuirs à l'intérieur, c'est fou, puis la technologie dans nos autos sont vraiment là, donc, c'est vrai qu'avant, nous autres, on vendait des hot dogs un peu, là, on vendait comme du fast-food, puis maintenant, il faut prendre le temps de vendre la qualité de ce produit-là. Et ça a dû commencer par, pas nécessairement moi, parce que moi, j'ai pas compris bien vite, là, mais les gens autour de moi, parce que je suis vraiment bien entouré, eux l'ont trouvé, ils l'ont compris, puis lors d'un souper, moi, ici, Denis, maintenant, quand on vend plus un Mazda, on présente un Mazda. On présente les avantages, la qualité. En travaillant comme ça, on a tellement une grosse banque de clients qu'on les rassoit dans des Mazda. Puis on avait baissé aussi un peu parce que dans le temps, j'avais juste Mazda aussi. Donc, si tu voulais acheter Denis Leclerc et son équipe, il fallait que tu achètes un Mazda. Parce que tu achetais Denis Leclerc et tu achetais l'équipe parce que tu achetais ce qui venait avec ces gens-là. Okay? Tu achetais le service qui venait avec. Puis ouais. Tout le monde parle de service. Moi, je vais te parler d'intégrité. Je vais te parler d'une transaction qui est... Tu vas t'en aller. Puis si tu reviens et il y a un doute dessus, bon, on va s'entendre pour que le doute se dissipe et qu'on reparte comme du monde parce qu'on fait des erreurs. On est humain. L'équipe de Denis Leclerc, à un moment donné, a acheté un Nissan, a acheté Hyundai, a acheté Kia. Et nos clients ne se sont pas gênés pour aller choisir un autre modèle. Si j'avais seulement Mazda, on en vendrait encore 4-5 000, c'est sûr. Maintenant, il faut refaire ce 3-4 000-là dans le nouveau modèle de Mazda. Et on est après s'ajuster. Puis là, malheureusement, c'est difficile à montrer par rapport au manque de véhicules. Ben, j'ai l'impression que si on a cette conversation-là, à la fin 2023, on va peut-être pouvoir apporter des réponses plus précises.
Denis, c'est un rendez-vous à ce moment-là. On va mettre ça au calendrier.
Nous y serons.
Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'était super intéressant. Et puis, bon succès dans les mois à venir. On a bien hâte de voir comment cette industrie-là va se diriger.
Merci, Denis.
Hey, merci de votre temps.
Merci, au revoir.